Le premier souvenir de Zep, pour moi, c'est de l'avoir rencontré à Paléo, mais ça, c'était après avoir découvert son œuvre. Je travaillais pour Paléo, je l'avais rencontré, il m'avait beaucoup impressionné, j'étais ravi de le rencontrer. C'est un homme extrêmement solaire, très particulier, hein. Je veux dire, quand on le rencontre, c'est quelque chose de très fort qui se passe. Et puis en termes de lecture, effectivement, le premier Titeuf m'avait beaucoup marqué, parce que je me suis dit, c'est une bombe, en fait. C'était transgressif, c'était quelque chose qui libérait l'enfance, qui la racontait avec vraiment sincérité et puis clairvoyance. Donc ça m'a beaucoup touché. Mais avant cela, mon premier souvenir de Zep, eh bien, c'est finalement Léon Coquillard. C'est l'album qui avait été édité par le GSSA pour Une Suisse sans armée. Et ça, c'est très drôle.
Et ça va totalement avec le personnage. Dans cette exposition, qu'est-ce que vous avez voulu montrer, en plus de, bien sûr, l'univers, le multifacette, toutes ces choses dont on vient de parler, mais c'est quoi pour vous les forces de l'exposition ?
Bien, c'est montrer l'éclectisme de l'auteur, effectivement sa possibilité, sa capacité à pouvoir s'adresser à plusieurs publics et pas uniquement aux enfants, et puis sa capacité surtout à raconter l'enfance avec beaucoup de naturel et de sincérité.
On se réjouit ici de justement venir découvrir, parce que c'est typiquement le genre d'expo que vous proposez à chaque fois, mais peut-être encore plus là, on va venir en famille, mais on va venir entre potes, on va venir à tous les âges, on va venir, comme on a l'habitude de le dire peut-être, de 7 à 77 ans, mais beaucoup plus en fait, bien avant et bien après.
J'espère que ce que vous dites va se réaliser, mais effectivement, c'est disons la marque de fabrique du château, c'est de pouvoir, et c'est pas forcément simple à faire, mais de réunir un assez large public avec les Schtroumpfs. On avait vraiment réuni des gens de une année et demie à pratiquement 87 ans, et puis là j'espère qu'on pourra faire de même.
Merci Philippe Duvanel.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril
sur Radio Chat. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Le Mag, c'est la plus belle région au monde. Le Chablais, la Riviera et le Pays d'en Haut. Raconté par la rédaction de Radio Chablais. Et les lundis, c'est sport. Parce qu'on aime bien commencer la semaine dans l'effort. Ça rend les week-ends meilleurs. Et toute la famille va s'y mettre dès aujourd'hui. Puisque la 3e édition de la semaine valaisanne du sport est à vivre dans tout le canton jusqu'au 4 mai. Différents événements pour le grand public se déroulent un peu partout en Valais. Avec notamment les Family Games ce samedi à Sion. Mais des conférences thématiques destinées aux professionnels sont également au menu, avec notamment la présence du judoka médaillé olympique Sergei Ashvenden. On en parle avec Xavier Borgeau et Grégoire Girillo, une des chevilles ouvrières de la semaine valaisanne du sport.
Grégoire Girillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport en Valais, et c'est la 3e édition de la semaine valaisanne du sport. On va revenir peut-être à la genèse de ce projet. Pourquoi une semaine du sport en Valais ?
Alors, une semaine du sport, pour parler positivement du sport déjà, mettre en valeur nos sportifs, notre jeunesse, et parler des valeurs que véhicule le sport.
Et c'était important de mettre une semaine sur pied comme ça ?
Oui, donc à l'instar de la semaine du goût, la semaine contre le racisme, on parle de la semaine du sport, parce que le sport c'est très important pour le département, pour l'État, pour notre canton.
Alors comment il se porte ce sport en Valais ?
Il se porte bien, je dirais au niveau du sport de masse, nous avons la chance d'avoir 115 000 adhérents à des clubs affiliés à des fédérations, donc c'est beaucoup. Nous avons également à peu près 60% des jeunes de 5 à 20 ans membres d'un club de sport. Alors vous me direz, que font les 40% restants ? Ben, ils font du théâtre, ils font de la fanfare, et malheureusement, un 10% ne fait rien.
Donc c'est sur ce 10% que vous tablez ?
Alors, on va essayer de les sensibiliser. Déjà, donc, dans l'idée, c'est de mettre sur pied un projet pilote pour le sport scolaire, pour préparer éventuellement une fête fédérale en 2028, mais là on va voir si on peut faire progresser ça. On n'a pas beaucoup de succès en Valais dans ce niveau-là, mais notre travail c'est de sensibiliser les écoles, les profs de sport, pour dynamiser ce projet.
Alors justement, vous parlez de ce travail qui est effectué sur le terrain. Est-ce que vous travaillez main dans la main avec les écoles, avec les établissements, avec le canton pour ça ?
Alors en principe, nous travaillons avec les fédérations sportives, les piliers du sport, c'est elles qui enseignent le sport. Nous, on les aide à financer certains projets, à financer des formations de moniteurs. Donc nous, c'est important que les clubs aient des moniteurs jeunesse et sport formés, gages de qualité.
Et c'est difficile, ça ?
Non, je dirais c'est... En fait, le canton répond aux besoins des fédérations. Nous n'avons jamais refusé à une fédération un cours jeunesse et sport, même si parfois, c'est des cours qui coûtent assez cher, mais nous faisons l'effort pour pallier le manque dans certains fédération orpheline, parce que les petites fédérations, c'est compliqué de mettre sur pied des cours. Là, l'Office cantonal du sport les aide.
Alors, on l'a dit, c'est la 3e édition de cette semaine valaisanne du sport. Sans aller dans trop de détails, mais quel sera le programme de cette semaine ?
Alors, l'idée, c'était de dire un jour, une activité sportive, ou une conférence, ou quelque chose. Donc, on a commencé bien sûr par la demi-finale de coupe suisse avec le résultat que l'on connaît, également le en départ football, du Tour de Romandie, exactement football, le départ du Tour de Romandie à Saillon qui était un beau succès. Donc ce soir lundi, nous avons le kick-off de l'Eurofoot féminin 2025 au stade de Tourbillon, là aussi un beau projet pour le Valais et pour le sport féminin que le canton encourage. Demain soir, nous avons une conférence et une démonstration sur la lutte suisse à Viège, donc là en allemand. Donc là, nous avons la chance d'avoir un roi de la lutte suisse qui sera là. Également, on parlera, donc il y aura une démonstration d'abord avec des jeunes et des moins jeunes, puis ensuite une conférence sur comment devient-on couronné fédéral. Donc c'est clair que c'est en vue d'eux, hein. Peut-être en 2031, on aura la fête fédérale de lutte suisse à Sion ou ailleurs. Donc c'est important pour nous de préparer tout ça. Mercredi, un grand moment aussi, nous avons une démonstration sur les sports de tradition. Donc, sport de tradition, ça veut dire la boxe, ça veut dire le karaté et le judo, avec des champions qui seront là pour montrer un petit peu leur sport. Et après, pour débattre, c'est les valeurs qu'inculquent ces sports de tradition, comme on peut appeler. Jeudi, un grand moment aussi, nous avons les fameux mérites sportifs valaisans au Baladin, où nous sommes sold out pour la première fois. Le Baladin sera plein, joli. Plein là, comme un œuf. Donc là, c'est le but que m'avait assigné mon chef de département, de remplir le Baladin. Il sera plein avec...
Donc, objectif atteint.
Objectif atteint pour moi, mais on verra maintenant concrètement comment ça se passe. Où on aura aussi le plaisir de mettre en valeur des jeunes sportifs talentueux et des sportifs avérés qui ont fait rayonner le Valais ailleurs dans le monde.
C'est vrai que ça, c'est important hein, de pouvoir mettre en avant les ambassadeurs finalement du sport valaisan.
Bien sûr, puisqu'un un champion de sport met en valeur le canton, puisque le slogan du canton, c'est Valais actif, Valais sportif. Donc c'est clair, pour nous, on a le plus beau stade du monde, les Alpes. Donc là, on met en valeur, évidemment, c'est plus facile pour nous d'avoir un champion de ski qu'un champion de haltérophilie. On est d'accord, mais on met tout en place pour que même un champion d'haltérophilie puisse devenir champion d'Europe ou ailleurs. Donc on met en valeur ces sportifs et des équipes aussi, sport handicap. Mon chef de département va attribuer un prix valeur sportive. Donc c'est le terme valeur sportive, c'est pas seulement des résultats, c'est aussi une éthique.
C'est aussi un état d'esprit, hein. Exactement. C'est extrêmement important.
Et puis un prix spécial à deux personnalités du sport qui sera dévoilé jeudi soir. Et samedi, très important, nous avons les fameux Family Games à Sion, où là on attend toutes les familles, tous les amis, pour venir s'essayer à 20 sports différents sur la place du C.
On sent en tout cas l'enthousiasme chez vous. On va peut-être rappeler que c'est sur inscription, donc les gens peuvent venir.
C'est gratuit.
C'est gratuit, donc, mais c'est sur inscription.
Bien sûr, et malheureusement, jeudi soir, c'est complet.
Et jeudi soir au Baladin, c'est complet. Grégoire Girillo, merci beaucoup pour toutes ces informations. On le rappelle, vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport du Valais, et c'est la troisième édition donc, de cette semaine sportive en Valais. On vous souhaite plein succès avec cette semaine.
Merci à vous et vive le sport.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
On passe à présent au rink hockey dans ce mag spécial sport du lundi, parce que de toute façon, les lundis, c'est sportif et c'est pas fastoche de commencer la semaine. Et là, peut-être aujourd'hui, encore un petit peu moins. Mauvaise nouvelle, le retour du Montreux HC en LNA de rink hockey ne sera malheureusement pas pour tout de suite. Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc. Effectivement, les joueurs de la Riviera ont été éliminés samedi par Puy au stade des demi-finales de play-off de la 2e division nationale. Une défaite 5-4 après prolongation, entachée d'une potentielle erreur d'arbitrage sur le but décisif. Le club s'est d'ailleurs réservé le droit de déposer protêt. Réponse dans quelques jours. Mais pour le moment, c'est l'amertume qui prédomine pour le Montreux HC. Les Vaudois sont éliminés alors qu'ils ne visaient rien d'autre que la promotion. Julien Massy s'est entretenu avec l'entraîneur de l'équipe, Rui Kova.
Grégoire Girillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le chef de l'Office cantonal du sport.
Très amer. C'était un match qu'on était obligé de gagner. C'était un match qu'on a donné un mi-temps d'avance comme le match allait à l'équipe adversaire. Et la deuxième mi-temps, on a fait un très bon deuxième mi-temps. Cette équipe méritait plus que ça. L'équipe passe devant le résultat. Après, il prend un but à la fin. L'équipe marque un but pour égaliser le match. Après, on a concret des opportunités pour marquer pour tuer le match. Péno, cage ouvert. Et on n'arrive pas à marquer. Après, avec une erreur d'arbitre à la fin, on prend un but.
Justement, votre équipe, elle a montré du caractère. Vous êtes mené 2-0 à la mi-temps, vous êtes mené 3-1, vous revenez au score. Ça, c'est la force de votre équipe cette saison?
Je ne dirais pas la force parce que on est habitué à passer à gagner, on est habitué à gagner le match. Je pense que mon équipe, elle a montré qu'il y a du caractère, il y a de l'envie qu'on ait besoin. Parce qu'il y a des matchs comme ça, il faut avoir. Et l'équipe, elle a tout fait pour gagner le match. Elle a tout fait.
Il y a eu des opportunités, vous l'avez dit, en fin de rencontre. Vous avez réussi à prendre de l'avance. Ne pas réussir en prolongation à garder ce petit but d'avance, c'est ça qui vous coûte le match aujourd'hui?
Oui, c'est ça qui nous coûte cette match aujourd'hui. Et à ça, il n'y a pas que le but d'avance, il y a aussi le péno qu'on rate, il y a aussi des cages ouvertes qu'on rate. Et voilà, et quand tu rates autant d'occasions comme un match comme ça, le match peut tomber par un côté ou l'autre. Et c'est ça que l'équipe adversaire a fait. Avec un petit erreur et avec la chance, ils ont arrivé devant, mais la chance, elle se cherche.
Cette série de demi-finale de play-off face à Puy, elle se solde par une défaite 3-1. À quel moment, selon vous, vous laissez échapper votre chance de remporter cette série?
Je pense que déjà le premier match, on n'était pas à notre niveau chez eux. Après, à la maison, le moment qu'on gagne 2-1, il y a 10 minutes de la fin, on prend 3 buts d'ensuite, notre erreur aussi. Je pense que c'est après ce deuxième match qu'on n'a pas réussi à gagner chez nous, qu'on méritait de gagner en plus. C'est là que je pense qu'on a perdu cette série.
Une demi-finale face à un adversaire qui géographiquement est proche, un derby, ça mettait un petit peu de piquant en plus.
Je pense que l'équipe elle a senti ça, oui. Pour moi non, parce que pour moi j'ai envie de gagner tout le match, n'importe si c'est ici à côté, c'est d'autre côté de la Suisse. Oui, les joueurs ils ont senti je pense un peu ça et ça se voyait aussi pour le supporter qui était dans la tribune. Mais voilà, l'équipe, je pense aussi que les joueurs sont dépassés un peu plus, ils ont donné un peu plus. Et voilà, je pense que c'était un derby.
Maintenant, la saison est terminée. Quel bilan à chaud, vous, l'entraîneur, vous tirez de cette saison avec le Montreux Hockey Club?
Déçu pour ne pas arriver à notre objectif. Parce que la vérité, c'est qu'après tout ce qui est arrivé depuis le début de la saison, que j'ai 9 matchs, c'est notre gardien titulaire. Jouer avec un gardien qui a 16 ans, qui a joué la plupart des championnats. Arriver dans la première 4 places, je peux être fier de mon équipe. Mais déçu parce que cette équipe méritait plus. On a montré dans la piste qu'on méritait plus qu'arrêter ici à demi-finale avant de jouer la finale.
L'objectif en début de saison, c'était la promotion. Cet objectif, il n'est pas atteint. Ça vous laisse quel sentiment?
Un peu de tristesse parce que j'ai appris l'équipe, ça fait 2 ans. Cette équipe, elle a beaucoup évolué. C'est plus les gamins que j'ai appris qu'ils avaient 17 ans et 18 ans. Ce sont des jeunes hommes qui ont de 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ils ont beaucoup progressé. Ils jouent mieux, ils sont ce que j'ai dit. C'est déjà quelque chose. Et cette équipe, je pense qu'elle mérite plus que ça. Et c'est pour ça que je suis triste. Parce que je sais que cette équipe mérite plus que l'MB.
Et pour vous, la suite, c'est de rester à la tête du Montreux Hockey pour la saison prochaine, de travailler sur une nouvelle équipe, d'apporter 2-3 petits changements. Comment vous voyez l'avenir?
Déjà, je peux rien dire. Il vient de finir la saison. Normalement, oui. Je reste comme entraîneur. L'année prochaine, je peux jouer parce que j'arrête d'être étranger aussi. Je pense, mais après, le reste de la saison, pour la saison prochaine, on va réfléchir, on va parler avec la direction, on va essayer de faire le mieux pour que ça soit mieux pour l'équipe.
Le mieux, c'est d'essayer de trouver quelques éléments qui peuvent bonifier l'effectif ou d'aller avec les jeunes, de faire rentrer des jeunes dans l'effectif pour le futur?
Pas forcément chercher des gens. Je pense que les joueurs ils progressent tous les années, ils sont en train d'améliorer chaque année. Pas obligé d'aller chercher des joueurs, mais s'il faut, pour améliorer l'équipe, on discutera sur ça avec la direction.
Et les objectifs resteront les mêmes, aller chercher cette place en Liga?
Toujours le même, il n'y a rien qui change.
Radio Chablais, programme de nuit.
Et pour terminer ce mag sportif du lundi, on va parler de basket. Thierry Nicolet, tu reçois le nouveau président fraîchement élu du BBC Monté-Chablais.
Effectivement, Claude Potier a été plébiscité mercredi dernier lors d'une assemblée générale extraordinaire pour être le successeur de Laurent Duchoux. Il en a même profité pour présenter ses projets futurs pour le club de sa ville. Claude Potier, bonsoir.
Bonsoir.
on l'a dit, président du BBC Monté-Chablais. C'est quelque chose que vous auriez voulu, que vous auriez imaginé. On le rappelle, vous êtes membre du comité depuis 2 ans, maintenant président. C'était une volonté de votre part?
Alors, c'était pas forcément au départ une volonté. Quand je suis rentré il y a 2 ans au comité, effectivement, Laurent Duchaux avait déjà annoncé qu'il allait faire 4 ans, donc il faisait encore 2 saisons. Après, on se posait la question, est-ce qu'il allait quand même continuer ou pas? Et puis, en début de la saison dernière, il a clairement annoncé lors de l'Assemblée Générale que c'était sa dernière saison.
Et puis là, vous vous êtes dit, ça pourrait être moi?
Alors, j'ai clairement, dans les discussions que j'ai eues avec Laurent, je lui ai dit que j'étais disponible, pas forcément vraiment tout de suite intéressé, mais disponible, en disant que s'il y avait une candidature, une personne qui s'annonçait et qui voulait prendre, à tout prix prendre la présidence, c'était pas une ambition démesurée de ma part, et puis je serais volontiers resté au comité.
Ouais, bah on le dit, on vous appelle maintenant président du BBC Monté-Chablais. C'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut impressionner. Vous le voyez comment, ça?
Non, moi je pense ça plutôt comme un défi, comme une chance aussi de pouvoir m'engager encore plus que je l'ai fait jusqu'à présent pour ce club qui est mon club depuis plus de 50 ans, puisque j'ai fait toutes mes classes de basket au BBC Monté. Et puis c'est vrai que c'est aussi une occasion pour moi de retrouver tous ces gens, les amis, les anciens du club, très vite autour du club depuis bientôt 50 ans comme moi.
Si vous deviez décrire le BBC Monté-Chablais en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Justement, vous l'avez dit, c'est toute une partie de votre vie.
Alors c'est une grande partie de ma vie. C'est vrai que ça fait 50 ans que je vis le basket d'une manière ou d'une autre. Alors d'abord comme joueur, ensuite comme spectateur, parce que c'est vrai que c'est pour moi c'est vraiment le sport que j'apprécie le plus. Et quand j'ai l'occasion d'aller voir, j'ai eu l'occasion d'aller à NBA voir des matchs aux États-Unis, je vais souvent en Italie aussi voir des matchs. Donc c'est vrai que pour moi ça reste un sport spectaculaire et magnifique.
S'il y a des souvenirs comme ça dans vos plus jeunes années du BBC Monté-Chablais, dans les récentes aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant?
Alors peut-être 2 souvenirs. Bah effectivement, avec mon frère jumeau, on était intégré à la première équipe dans les années 80, l'année de l'ascension, puisqu'à cette époque Piero Vanès désespérait un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs suisses qui étaient soit à l'école de cru, soit en cours de répétition, donc il n'arrivait pas à former, à avoir 10 joueurs sur sa disposition pour pouvoir faire les systèmes et puis entraîner l'équipe. Et puis à l'époque, moi j'étais étudiant au collège de Saint-Maurice, et c'est vrai qu'on allait à l'époque encore au collège le samedi matin, et quand on faisait faire les déplacements à Lugano, il fallait obtenir une autorisation spéciale du pro-recteur de l'époque pour être libéré le samedi matin pour rejoindre l'équipe et puis faire le trajet jusqu'au Tessin.
Ouais, bah, c'est une sacrée anecdote en tout cas, de quoi fatiguer quand même un peu, on imagine aussi. On a parlé de ce rapport que vous avez avec le BBC Monté-Chablais, votre point de vue personnel sur ce club. Parlons du club en lui-même, sportivement. La saison 2023-2024 vient de se terminer sur une défaite en quart de finale de play-off. C'était face à Genève. Tout ça après avoir terminé 5e du classement de la saison régulière. La place du BBC Monté-Chablais, c'est ça, c'est de finir milieu de tableau, déqualifié pour les playoffs et puis les quarts de finale, où on peut viser mieux quand même?
Alors c'est vrai qu'on peut viser mieux dans le sens, peut-être pas au niveau du classement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même certaines équipes qui, eu égard à leur budget, vont être forcément aussi devant nous dans le championnat régulier. Par contre, c'est vrai qu'on a échoué de peu cette saison par rapport à la SBL Cup, donc au niveau de la Coupe Suisse, mais aussi par rapport à la Coupe de Montreux. On a perdu à Vevey, on gagnait presque tout le match, on a perdu dans les dernières minutes, et c'est vrai que voilà, ça c'est des buts qu'on aimerait, des objectifs qu'on aimerait bien atteindre assez rapidement.
Ouais, vous parlez de ce Final Four, se joue à Montreux, salle toujours assez pleine, donc c'est vraiment c'est ce genre de match qui donne envie de participer à fond, c'est ça?
C'est ça, et puis c'est surtout le petit plus qui fait qu'une saison est mieux réussie qu'une autre. Donc je pense que le classement de 5e, alors c'est vrai que si on peut gagner encore une place et puis jouer un quart de finale à domicile d'abord plutôt que d'aller à l'extérieur, c'est forcément l'avantage du terrain, et on a vu le public qui était extraordinaire lors des 2 derniers matchs contre Genève. Donc c'est vrai que cet avantage, ce 6e homme sur lequel on pourrait compter, pour nous c'est un avantage considérable.
Ouais, Monté a été loin d'être ridicule face à Genève, aussi une des grosses équipes, des gros budgets en tout cas du championnat. Ce club, vous voudriez l'emmener jusqu'où, vous?
On est là pour rêver, pour faire rêver. Donc c'est vrai que si on pouvait améliorer, comme j'ai dit, le classement, réussir peut-être, en tout cas être présent dans une des 2 finales, voire les 2 finales de coupe. Donc ça, c'est des objectifs qu'on peut atteindre et qui, en fonction des tirages au sort aussi, sont tout à fait réalistes. Et puis peut-être, en tout cas, consolider, confirmer le classement qu'on a obtenu cette année pour la saison prochaine.
Et ces objectifs sportifs, comment on peut se donner les moyens de les atteindre?
C'est d'une part en essayant de faire en sorte que les actuels potentiels sponsors et contributeurs, le reste, continue à soutenir le club. Certains sont déjà engagés sur une certaine durée. Et puis peut-être d'en trouver, je vais essayer d'en trouver d'autres aussi pour essayer d'avoir un peu plus de réserve et de marge de manœuvre pour avoir un ou deux joueurs supplémentaires qui feront peut-être la différence sur le terrain.
Et on a fait le bilan de cette saison 2023-2024. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que Monté est une des équipes qui fait jouer le plus de joueurs suisses hein, dans son effectif, qui ont le plus de minutes aussi. Ce secteur de la jeunesse, on croit comprendre que c'est assez important pour vous, vous nous le confirmez?
Alors c'est essentiel parce que c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu une séparation au niveau de la gestion administrative des deux entités, donc le mouvement jeunesse d'une part et la première équipe. Alors ce qui pour moi ne pose pas de problème en soi, par contre c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on ait une continuité, une suite logique entre le mouvement jeunesse, donc les U16, les U23 et puis la première équipe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, si on fait une comparaison avec d'autres clubs, on a plusieurs autres clubs de Suisse qui ont un mouvement jeunesse ou qui ont une deuxième équipe qui joue les ténors en Ligue Nationale B. Nous, on a une équipe de U23 qui actuellement, depuis quelques saisons, est plutôt en fond de classement. Donc c'est vrai qu'on doit améliorer ce lien avec les jeunes, puis surtout donner une perspective à tous les jeunes de club de pouvoir se dire, mais un jour, si je suis bon et si je m'entraîne et si je suis motivé, je peux jouer avec la Ligue 1.
Et ça passe par essayer de les garder, ces jeunes joueurs, justement leur donnant un objectif, un rêve, ça peut permettre de les garder dans l'effectif?
Alors c'est un des objectifs. Après, on ne pourra pas empêcher, on l'a vu, hein, on a 5 à 6 jeunes qui sont à l'étranger pour se former, pour se perfectionner. C'est vrai que si certains d'entre eux veulent vraiment faire du basket aussi leur carrière professionnelle, ben c'est clair que la Suisse est peut-être un peu à l'étroit et on n'a pas toutes les ressources non plus nécessaires, mais on a différents projets sur lesquels on travaille. Et puis le projet qui va se concrétiser déjà la prochaine saison, c'est que l'assistant coach de Ligue Nationale A sera en même temps l'entraîneur coach de U23 et on va assurer ce lien étroit entre le mouvement jeunesse et puis la première équipe.
Il y a du travail qui vous attend, en tout cas on a bien compris, Claude Potier. Pour ça, vous serez entouré d'un comité renforcé, c'est ça?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on perd évidemment Laurent Duchoux quitte la présidence mais également le comité, hein, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il va forcément rester aussi proche du club et je sais que je vais pouvoir compter sur lui aussi pour la suite. Par contre, il y a 3 nouvelles personnes en principe qui vont rejoindre le comité et puis il y a aussi la mise en place de commissions, une commission technique pour soutenir notre team manager Nicolas Berolser. Il y aura une commission finance aussi pour essayer justement d'élargir le nombre de sponsors et de contributeurs. Et puis une commission aussi plutôt en lien avec le bénévolat, avec les animations aussi du club.
Ouais, ça fait du travail, garder les jeunes, investir sur cette jeunesse. Il y a un autre club dans la région qui joue dans la même salle que vous, au Rouxpozieux, c'est le BBC 3 Torrent. Là aussi, on peut imaginer des liens un peu plus forts entre les deux entités.
Alors, on va pas seulement les imaginer, on va vraiment les concrétiser, les réaliser dès la saison prochaine. J'ai déjà eu plusieurs rencontres avec Xavier Mottet, le président. On va travailler, par exemple, sur la possibilité d'un abonnement commun pour aller voir les matchs, de peut-être travailler aussi sur des journées où on aura, par exemple, les samedis, on jouera en même temps, la même journée, les deux équipes de Ligue 1. Donc voilà, il y a plein de projets comme ça, plein d'idées qui peuvent être réalisées, des activités communes pour renforcer les liens et puis pour montrer aussi, je crois, à l'ensemble du canton, à l'ensemble de la région, que le basket, c'est le sport principal de la région du Chablais.
Ouais, c'est ça, c'est que dans un petit périmètre, on a deux équipes de première division, il y a vous, il y a Trois-Torrents, il y a encore Vevey, il y a aussi Vevey qui est un peu plus loin. Vous l'avez parlé, le Chablais, le pôle cantonal de basket, ça c'est faisable? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite?
Alors ce qu'on imagine, c'est si on arrive à fédérer toute la région autour du basket, c'est de faire aussi admettre et reconnaître par le canton que le Chablais est le pôle de compétence du basket. Et puis dans les discussions futures qu'on va avoir avec les municipalités, avec la possibilité de construire une salle dédiée au basket, pas exclusivement pour le basket, mais principalement dédiée au basket, je pense qu'à travers des sponsors, à travers une émulation de toute une région, on peut arriver à obtenir une décision politique. Et puis aussi, évidemment, un soutien cantonal avec la nouvelle loi sur le sport qui prévoit un subventionnement de l'ordre de 30% si une région est reconnue comme centre de compétences pour un sport.
Et puis si on peut se permettre de rêver un petit peu, dans combien d'années on pourrait voir ça?
Alors, c'est un projet qui, en principe, se réalise sur un horizon de 5 à 8 ans, mais il faut le démarrer une fois, il faut que l'ensemble des entités concernées se mobilisent pour ça, et puis après ça peut aller assez vite.
Ouais, Claude Potier, on le rappelle, vous êtes le nouveau président du BBC Monté-Chablais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce mandat?
D'avoir beaucoup de plaisir dans l'exercice de ce mandat, puis surtout faire en sorte que tous les gens qui gravitent autour du BBC Monté continuent à avoir beaucoup de plaisir à le faire.
En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite une excellente soirée.
Merci à vous, bonne soirée.
Et une excellente soirée aussi à tout le monde. Merci beaucoup.
Et une excellente soirée à tout le monde, parce que la vie peut être merveilleuse lorsqu'on vit la magie du basket.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Va des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, bah c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Je me souviens pas de la dernière fois que je suis monté sur un vélo. C'était il y a très longtemps. Et pourtant, Dieu sait que la pratique de la bicyclette s'est démocratisée, notamment depuis un certain virus nommé Covid. Bref, il y a un bike park qui a ouvert il y a pas très longtemps à Fuy. Et je me suis demandé, c'est quoi un bike park? Je reçois pour répondre à la question Alexandre Roduit. Salut.
Salut, bonjour.
Alors déjà, merci d'être arrivé parce que t'as eu un petit pépin, je pensais qu'il va venir à vélo. Non, t'as eu un petit pépin avec ta voiture en arrivant ici, donc on est très heureux que tu sois arrivé et en un seul morceau. Allons-y, toi tu es membre du comité du bike park de Fuy.
Exactement.
Un bike park, c'est quoi ?
Un bike park, c'est un grand espace naturel qui est dédié à la pratique du VTT. Un espace avec des virages relevés, des sauts, des bosses, un wall ride, des passerelles, des modules d'équilibre. Il y a deux objectifs, c'est de se faire plaisir sur son VTT et puis aussi de s'exercer. Il y a plein de petits modules qu'on peut pratiquer pour ensuite être à l'aise sur les sentiers quand on va se faire des randos plus haut.
Donc, est-ce que c'est une espèce de parcours vita didactique du vélo, un peu un truc comme ça ?
On peut voir ça comme ça, exactement.
Avec des panneaux et tout ça ?
Il y a des panneaux qui expliquent un petit peu les règles. Et puis après, on a sur chaque module d'exercice, c'est en cours de préparation maintenant, on va mettre un petit QR code, il y a un petit piquet avec un QR code. Et puis sur ce QR code, on trouvera des tutos vidéo pour apprendre comment se positionner, pour faire un petit saut, comment se positionner pour chaque type d'exercice. Et puis on peut s'exercer avec différents niveaux à chaque fois. Par exemple, quand on fait un saut, on commence niveau bleu, ensuite rouge, noir, il y a des sauts de différentes hauteurs. C'est vraiment conçu et pensé pour tous les niveaux. On peut même venir en Andrésienne, on a les enfants du quartier qui sont souvent dessus. Et puis, on peut aller très très loin, il y a des gars qui font des sauts énormes. Enfin, tout le monde se fait plaisir en fonction de son niveau. On peut se faire plaisir et on peut progresser, puis un peu les deux en même temps, et c'est top.
Ça, en plus, avec des codes couleurs qu'on connaît bien, c'est les mêmes que les pistes de ski.
Exactement, c'est hyper facile.
Et c'est assez ouf ça, parce que c'est vrai qu'il y a une démocratisation énorme de ce sport, notamment durant la période Covid, parce qu'on s'est dit, le seul moment où on peut sortir, bah, c'est pour aller faire du vélo, allez hop, tout le monde achète un vélo. Mais ce qui est quelque chose de bien, finalement, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélos dehors, et là, en fait, il y a une partie didactique où on t'enseigne à comment bien te tenir pour finalement pas te blesser, parce que plus il y a de pratiquants d'une discipline, plus il y a des risques d'accident.
Exactement, il faut apprendre à le faire bien, et puis là, on a vraiment l'opportunité de s'entraîner, de progresser, chacun à son niveau. Puis quand on maîtrise bien une étape, et ben on passe un peu plus loin.
Quelle surface il fait ce bike park ?
C'est 6000 mètres carrés.
Ça représente combien en terrain de faute, pour ainsi dire ?
Ah, je sais pas.
C'est terrain de faute, un truc comme ça, non ?
Ouais,
c'est pas
peut-être.
Ça
alors c'est en pente, c'est en légère pente naturelle, tout en pierre, en bois et en terre. Pas de béton, pas de goudron.
Donc potentiellement, il va falloir, les jours de pluie, on rentrera avec tout taché de boue, comme quand on était gamin, et puis qu'on allait partir faire les chèvres à vélo dans la forêt.
Ah, c'est la joie du VTT, ça, ouais, c'est sûr.
On est d'accord. Et est-ce qu'il y a déjà... Vous l'avez ouvert il n'y a pas longtemps, c'était quand là, l'ouverture ?
Il y a eu l'inauguration début avril, exactement.
Ouais, et ça a pris combien de temps pour le construire ?
Alors, 2 mois.
Seulement.
2 mois de travaux, c'est que des éléments naturels, la terre était principalement sur place, les cailloux aussi. Il a fallu amener un peu de bois. Mais ouais, c'est l'entreprise Trailworks qui a été au top pour ça. Merci encore et bravo à eux.
Ouais, ils ont bien bossé,
ouais, ils ont été super efficaces et super pro. Et ce qui est chouette, c'est que c'est au sein de cette entreprise, c'est que des tout ou bons descendeurs VTT.
Ah mince, ah, c'est dommage, on a joint l'utile à l'agréable.
Non, mais du coup, ils font leur boss de manière à ce que ça passe bien. On risque pas, enfin, c'est pas conçu pour que ça casse au milieu, quoi. C'est vraiment fluide, c'est conçu pour rouler bien, vite et bien, et puis lentement aussi si on veut, enfin voilà, il y a vraiment pour tous les niveaux.
Et là aussi je vois un parallélisme avec par exemple les snowparks qui sont très souvent dessinés par des professionnels du freestyle, justement pour éviter d'avoir des réceptions trop dures ou bien d'avoir des longueurs trop courtes par rapport à la réception, c'est-à-dire que il y a une sécurité en plus parce qu'il y en a d'autres qui savent ce qu'ils font, qui l'ont dessiné.
Exactement, après ça n'empêche pas que quand on y va, il faut savoir mesurer ses compétences et puis pas se lancer n'importe comment.
C'est important de rappeler.
Mais c'est un bike park qui est vraiment génial pour ça, parce qu'on peut y aller tranquillement et se faire plaisir, et puis progresser, puis s'exercer, on fait une petite boucle pour essayer de trouver le truc, et puis quand on comprend, on va un peu plus loin.
Bon, on va approfondir un petit peu justement ces petits modules dans un tout petit moment. Je te propose qu'on fasse une courte pub. J'ai choisi une chanson, on va la voir tout de suite.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Radio Chablais. rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Un bike park, c'est un terrain sur lequel on peut pratiquer du VTT avec des virages relevés, des sauts, un wall ride, des bosses, dans un milieu naturel. C'est gratuit, en tout cas à Fuy, où le bike park a ouvert début avril. Et dans ce bike park, on a même des tutos qui vont apparaître très prochainement, histoire d'apprendre en toute sécurité et en fonction de notre niveau à comment se comporter avec un VTT quand on se trouve plutôt dans un milieu montagne. Alexandre Roduit, tu es membre du comité du bike park de Fuy. Comment ça se fait que cette idée, elle vous est venue de faire ces petits tutos? Je faisais tout à l'heure le simil avec les tutos qu'il y a dans les parcours Vita où on apprend à faire les choses, à faire les exercices. Ça vient d'où?
Alors, il y a vraiment l'idée de que ce soit un bike park didactique qui serve pour s'entraîner, pour améliorer son niveau, pour aller plus loin ensuite sur des sentiers. C'est un bike park qui est fait aussi avec des jeunes qui sortent tout juste de l'école. L'histoire, elle est assez sympa. En fait, c'est des jeunes de Fuy qui aimaient bien faire du VTT, qui construisaient des sauts un peu sauvages dans la forêt. Ils se sont fait reprendre par la police. Et puis, c'est Olivier Brand, qui est professeur au cycle de Fuy, qui s'est dit, mais c'est bête, il y a une énergie, il a envie de faire du sport, donc on va essayer de canaliser ça. Puis à partir de là, on a monté ce projet. Donc ces jeunes-là sont maintenant, font partie intégrante de notre comité.
Ah ouais?
Et puis exactement, ouais, c'est top. Le but, c'est vraiment qu'ils ont réfléchi au projet avec nous et puis ils continuent à le porter. Il faut entretenir le bike park, il faut aller arroser les haies qui ont été plantées au bord, etc. Enfin voilà, il y a du job d'entretien, donc c'est ce comité qui fait ça. Et puis les jeunes vont aussi s'occuper de ces petits tutos, des petits tutos vidéo qu'on va retrouver sur des QR codes qui seront là où il y a tous les petits modules d'exercice.
Alors ça, je trouve déjà la démarche, elle est super, parce qu'effectivement ces jeunes, ils allaient de toute façon aller faire les bouquetins avec leur vélo par là. Ben là, on les a non seulement donné la possibilité de faire dans un endroit un peu plus sécurisé entre guillemets, mais aussi on leur a donné la possibilité de eux sécuriser ceux qui viennent après.
Exactement. Et puis les sauts qui sont faits au bike park, c'est fait par des pros, donc c'est aussi plus intéressant pour eux au niveau vraiment purement pratique du VTT. Ils se font plaisir beaucoup plus, ouais.
Donc c'est ça, donc non seulement ils se font plaisir, donc non seulement ils ont moins de risques de casser le cadran de leur vélo et de se faire mal, mais en plus de ça, ils le font avec un monstre kiff. Et puis moi je vois un petit peu la similitude avec je sais pas si tu te rappelles les circuits de vélo qu'on avait avec la police quand on était enfant, où on tournait autour d'un mini rond-point où il y avait des rues qui étaient simulées. En fait, il y a un petit peu un côté comme ça aussi au bike park de Fuy.
Oui, c'est vrai. Et quand on a lancé le projet au tout début, la police de Fuy a soutenu la démarche officiellement.
Ah ouais.
Parce qu'en pensant justement à ce côté apprentissage, sécurité, on peut s'exercer sur le bike park à bien rouler en VTT. Et je pense que ça, un entraînement sur un bike park permet moins d'accidents ensuite quand on va sur les sentiers.
Ouais. Ah oui, c'est un peu comme, je sais pas, c'est simplement prendre des cours, quoi. Forcément, on va être plus préparé. Du coup, est-ce qu'il y a des écoles qui l'utilisent, ou bien déjà celle de Fuy peut-être?
Alors c'est prévu. En tout cas, le cycle d'orientation de Fuy va venir avec les profs de sport s'exercer, c'est sûr. Et puis d'autres écoles sont les bienvenues. On a aussi plusieurs guides qui se sont annoncés, qui vont venir avec leurs clients exercer peut-être un petit passage précis pour ensuite pouvoir faire une sortie où il faut maîtriser telle ou telle manière de faire.
Ah, donc des guides de VTT qui proposent des balades en montagne.
Exactement.
Et puis qui, en fonction de la balade, ils savent qu'ils vont avoir un point un peu plus où ça va demander plus d'équilibre, ou bien ça va demander peut-être plus de frein ou plus de résistance dans les bras. Ils vont aller utiliser les tutos, les emplacements d'entraînement dédiés, enfin qui correspondent à ses besoins.
Exactement. Voilà, s'il faut maîtriser la manière de sauter, on a plusieurs sauts à plusieurs hauteurs différentes, et puis on fait plusieurs fois la boucle, on s'entraîne, on peut s'entraîner à la position, etc.
Ouais. Et si une école, par exemple, je pense aux écoles de la région ou même plus loin, mais s'il y a une école qui se dirait, moi j'aimerais bien l'utiliser, où est-ce qu'il faudrait contacter?
Alors, il faut contacter l'association Fuy Bike Park, qui a un site, hein, fuybikepark.ch, où on retrouve aussi le lien avec l'office du tourisme de Fuy, on peut passer par là, par Fuy Tourisme.
Et toi, tu fais du vélo?
Un petit peu.
Un petit peu. De ton expérience à toi, il est cool comment le bike park?
Ouais, il est trop cool. Moi, j'ai pas un grand niveau, mais je me fais quand même plaisir. Je fais pas des sauts, je m'amuse. Ouais, je m'amuse déjà. J'y vais avec mes enfants, qui sont certains andrésiennes. Ils se font plaisir aussi. Et puis, en fonction des âges, il y a vraiment pour tous les niveaux, tous les âges.
Est-ce qu'on peut dire quand même que pour pratiquer ce genre de sport, on peut rappeler que la sécurité passe avant tout, casque, genouillère, coudière, ce genre de trucs?
Ah bah oui, c'est sûr qu'il faut se protéger, ouais.
Parce qu'on est dans la nature, hein, les cailloux ça peut faire mal, la terre ça peut râper aussi et le bois pareil.
Oui, et puis il faut pas se lancer sans maîtriser ce qu'on fait. Enfin, si on va n'importe comment à fond sur un saut, c'est sûr qu'on peut se faire mal. Ouais.
Surtout qu'on va pouvoir profiter de ces tutos. Pour moi, c'est vraiment le truc de ce bike park, parce que finalement aller s'amuser, tout le monde peut le faire, mais là on peut aller le faire intelligemment. C'est pas trop bien?
Ouais, c'est trop bien.
Bon, ben, Alexandre Audi, on est arrivé au terme de cette interview. Je te remercie vraiment d'être venu nous expliquer ce que c'est qu'un bike park, en l'occurrence celui de Fuy. Je rappelle que tu es membre du comité du bike park de Fuy. Merci infiniment et je te souhaite une excellente soirée. À bientôt.
Merci et bienvenue à tous.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Par ici la visite sur Radio Chablais.
Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut, il fait si bon. Chantait Marie Laforêt il y a 60 ans. Christian Chulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, après le Gramont, les Diablerets et les Dents du Midi le week-end dernier. Nous nous trouvons à nouveau en terre vaudoise pour évoquer un dernier sommet magnifique de la région.
La chaîne montagneuse face à laquelle nous nous trouvons est décrite en 1848, mais c'est toujours valable de nos jours, comme une arête longue, massive et hérissée de dents, parmi lesquelles on remarque, en allant de la Dent de Morcle au Diablerets, celle de la Tête Noire, de la Pointe Favre, aussi appelée Dent Favre, du Grand et du Petit Muffran. Le grand Muffran, géant solitaire, porte sur ses lourdes épaules deux glaciers. Au midi, celui de Plan-Névé, au nord, celui de Panéros. Et cette arête, elle délimite les cantons de Vaud et du Valais.
Continuons donc, Christian Chulet, par le plus majestueux de ces sommets.
À tout seigneur, tout honneur, commençons par le Colosse, celui qui est désigné comme l'un des géants de la chaîne des Alpes vaudoises, le majestueux grand Muffran, aussi appelé anciennement Mauvran ou Moévran, un grand Muffran qui culmine à 3061 mètres d'altitude et qui est constitué par trois arêtes qui se rencontrent au point culminant. Parmi les évocations dont il fut l'objet figure celle de l'écrivain et professeur de littérature française Eugène Rambert, dont le nom est par ailleurs gravé en hommage dans le rocher à Pont-de-Nant. Eugène Rambert qui publia en 1871 un ouvrage intitulé « B et ses environs, guide et souvenirs ». La description qui suit en est tirée. Le Muffran, qui se dresse de toute sa hauteur au-dessus du vallon des Plans et le domine de 2000 mètres, n'a que de petits glaciers cachés dans les replis de ses flancs. Vu de la vallée, il ne présente qu'un immense massif de rochers. Ce n'en est pas moins une de ces montagnes auxquelles on s'affectionne. La façon dont il dresse sa tête chauve n'est pas d'une cime vulgaire. Il la porte haute et fière, mais sans morgue ni ostentation. Le profil en est pur autant que sauvage. Et il y a dans cette masse décharnée, je le sais, quelle noblesse native, quelle grâce hardie qui attire et retient.
Poète.
Si ce n'est pas beau, effectivement. Oui.
Christian Chulet, la montagne attire aussi les amoureux de la pratique sportive.
Oui, le goût et la pratique de l'alpinisme se développent dans la seconde moitié du 19e siècle et le massif attire les touristes. L'arrivée du chemin de fer à Baie en 1857 facilite par ailleurs l'accès au vallon des Plans et aux montagnes environnantes. Dans ce contexte est envisagée la construction d'une cabane dans le massif des Muffrans. À l'initiative des guides des Plans et de Grillon, la section des Diablerets du club alpin suisse décide en 1894 d'y établir une cabane qui rendrait de très grands services pour toutes les excursions dans le massif du Muffran. La cabane en bois est construite par un charpentier lausannois et elle est acheminée, démontée par chemin de fer jusqu'à la gare la plus proche, qui est celle de Ride, puisqu'en effet, elle sera montée par le versant valaisan. Des guides de Frenières et de Grillon ainsi que des vignerons de Létron transportent ces matériaux jusqu'à la frette de Saille, l'emplacement qui a été choisi pour l'érection de ce petit hôtel de montagne et qui se situe entre le Grand et le Petit Muffran.
Une fois que la cabane est construite, on l'inaugure ?
Exactement, Pierre. Cette cabane de 21 places est inaugurée le 20 juillet 1895. Et elle est baptisée tout naturellement Cabane Eugène Rambert au Muffran. En effet, Eugène Rambert, qui était décédé 9 ans plus tôt, véritable écrivain alpin, fut en effet, en outre, parmi les membres fondateurs du club alpin suisse. Donc il était vraiment tout désigné pour donner son nom à cette cabane. Celle-ci est située à une heure de marche du sommet du Petit Muffran, qui lui atteint 2820 mètres, et qui est décrit comme une pyramide rocheuse à laquelle on accède par le versant valaisan, un versant revêtu d'une verdure qui lui a parfois valu le nom de Verdant. Et cette cabane, elle est agrandie par une annexe en 1910, puis transformée en 1920, avant d'être démolie en 1953, suite à la construction d'une nouvelle cabane à un emplacement plus favorable.
Mais retour en 1900, Christian Chulet.
Le massif des Muvrans fait partie du décor somptueux que découvrent cette année-là les invités qui prennent place à bord du convoi d'inauguration du chemin de fer de Baie à Grillon. Le Muvran donne son nom à plusieurs hôtels et rues jusqu'à Lausanne et même jusqu'à Échandon. Et il est représenté par de nombreux artistes, dont le peintre chablaisien Frédéric Rouge et l'illustre Ferdinand Audeler, qui séjourne à Chezières en 1912 et peint à cette occasion le Grand Muvran. Eugène Rambert, pour revenir à lui, écrivait que le Grand Muvran avait été orienté par la nature pour resplendir à la tombée du jour. Aucune montagne en Suisse ne s'illumine plus entièrement aux rayons du soleil. Ce n'est pas de la pierre, c'est de la braise. Une montagne incandescente, écrit-il encore. Et c'est sur cette note lumineuse et chaleureuse que prend fin cette série hivernale consacrée à quatre montagnes emblématiques de notre région.
Christian Chulet, merci beaucoup. Nous nous retrouverons, quant à nous, l'été prochain pour de nouvelles histoires liées à la région. À bientôt.
C'était un plaisir, à bientôt.
Et dès la semaine prochaine et à l'occasion des 40 ans de Radio Chablais, nous découvrirons tout au long de 2024 la région sous toutes ses facettes. Et l'Association du Chablais est notre première invitée, donc rendez-vous la semaine prochaine.
Par ici la visite.
Radio Chablais, programme de nuit. Quatrième de couverture, la chronique littéraire sur Radio Chablais.
9 mm et des poussières, c'est le titre d'un thriller paru en auto-édition. Son auteur est avec nous, Sandrine Spicher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes installée à Aigle, journaliste, écrivaine. Vous avez publié votre premier polar en 2019, La cire et le feu. Suivront d'autres aventures. Vous écrivez également des nouvelles, des contes et des romans feel good. Sur la quatrième page de couverture de celui-ci, on peut lire « Gaëtan n'est pas compliqué, il aime son job de flic, il aime son fils. Gaëtan n'a qu'un problème, sa violence, qu'il canalise comme il peut. » Justement, dans son travail, Sandrine Spicher, Gaëtan sait qu'il n'est pas le meilleur élément.
Oui, il est conscient d'avoir plein de problèmes de gestion de ses émotions. Il a tendance un peu à péter un câble quand il s'énerve. Mais après, il a aussi des collègues qui sont... un collègue en particulier qui est très présent, qui est plus qu'un collègue, c'est un ami, et puis qui est justement là un peu pour le calmer et puis l'aider à gérer les situations qui pourraient tourner au vinaigre.
Dans sa vie privée, Gaëtan a une sœur, Jasmine. Elle habite certes au Canada, mais leur relation est très forte.
Oui, c'est deux personnes qui se comprennent en fait sans avoir besoin de se parler. Ils arrivent à capter les émotions de l'autre. Et puis, ils ont cette relation qui est surtout une relation téléphonique, où quand il y en a un qui va pas, ben, il appelle l'autre et puis ils se font un peu des coups de fil comme ça à travers l'Atlantique. Et c'est vrai que c'était assez drôle à écrire parce que dans mon livre, c'est surtout des épisodes de la vie de Gaëtan qui sont racontés. Et puis, il fallait que je calcule un peu le décalage horaire pour que ça soit cohérent quand même, les coups de fil entre Lausanne et le Canada.
Gaëtan aime son fils Antonin, il a été dit. En revanche, Sandrine Spicher, les contacts avec la mère du petit garçon sont difficiles et le terme est faible.
Ils sont conflictuels, on dira plutôt. Et puis c'est quelque chose qui est encore une fois lié au problème de gestion des émotions de Gaëtan, que son ex-femme, donc la mère de son fils, elle n'arrive plus à supporter le fait qu'il puisse être violent de cette manière. Et donc voilà, elle fait tout pour le tenir éloigné du petit garçon parce qu'elle a peur qu'il puisse arriver quelque chose.
Restons sur Gaëtan encore un instant. Il fait du sport donc pour essayer de canaliser sa violence. Et dans une salle de sport, il fait une rencontre.
Oui, il rencontre Laurine qui est une jeune femme qui travaille dans une radio d'ailleurs, radio fictive que j'ai appelée Flon FM parce que ça se passe à Lausanne. Et puis cette jeune femme, c'est un peu une bouffée de fraîcheur pour Gaëtan. Il est au lieu de rester coincé toujours dans son job, dans sa violence, dans ses relations conflictuelles avec son ex-femme, etc., d'un coup, il a quelqu'un de nouveau et puis il commence une nouvelle aventure et c'est un peu une bouffée de fraîcheur, quelque chose qui lui amène un peu de nouveauté dans sa vie.
Cependant, Sandrine Spicher, Gaëtan est un jour mêlé à une enquête. Que s'est-il passé?
Alors, c'est toute sa faute. En fait, on pourrait croire qu'il a de nouveau fait des choses qu'il fallait pas faire et puis que ça lui retombe dessus. Donc je vais essayer de pas trop en révéler parce que c'est quand même le cœur de l'intrigue, c'est le fait qu'il soit mêlé à cette enquête. Mais comme il est suspendu pendant quelques mois, bah il va essayer d'enquêter par lui-même. Et puis c'est un peu, on est toujours un peu sur ce fil entre essayer de trouver la vérité par des moyens qui sont pas ceux que prendrait la police et en même temps ne pas trop faire de bêtises pour pas se mettre encore plus dans des problèmes qu'il ne l'est déjà.
9 mm et des poussières, c'est le titre de votre thriller, Sandrine Spicher. L'écriture de ce roman a d'ailleurs été une véritable aventure pour vous aussi.
C'est un roman que j'ai commencé à écrire il y a très longtemps. C'est surtout le personnage en fait que j'ai imaginé il y a longtemps, qui était d'abord inscrit dans une intrigue qui avait rien à voir avec celle-ci. Et puis je l'ai fait relire à des amis qui m'ont dit ça va pas du tout. Donc j'ai changé l'intrigue, je l'ai refait relire. On m'a de nouveau dit il y a des incohérences. J'ai re-rechangé. Enfin tout ça pour dire que oui, ça a pris du temps et plusieurs réécritures avant d'arriver au produit que je présente maintenant et qui finalement je trouvais assez abouti. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à voyager avec ce Gaëtan et j'espère que ce plaisir sera partagé avec mes lecteurs et lectrices.
Découvrez donc 9 mm et des poussières, un thriller paru en auto-édition. Toutes les infos se trouvent sur votre site internet sandrinespicher.ch. Merci beaucoup d'avoir été un instant avec nous.
Merci à vous pour l'invitation.
Quatrième de couverture. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Sur le grill.
Un chef papou qui vient du côté de Lézin, c'est ce qu'on vous propose justement comme thématique. C'est le 1er mai prochain. Stéphanie Dervet, Nicole Gromeau, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous organisez cette soirée. Déjà, juste nous expliquer qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il y a un chef papou qui débarque sur les hauts de Lézin.
Eh ben en fait, je voulais juste acheter les livres qu'ils ont sortis avec le réalisateur Marc Dezier.
Ouais.
Et puis du coup, ils sont introuvables, je l'ai eu au téléphone et puis il m'a parlé de ses projections rencontres et puis qu'il était ouvert à venir en Suisse. Et puis je me suis dit, mais il faut faire ça.
Simplement.
Voilà.
Le délire, il part de là, c'est qu'en plus, bah, vous avez une librairie, hein, Stéphanie Dervet, justement, à Lézin. Alors, juste pour placer le contexte, Marc Dezier, donc le réalisateur, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait?
En fait, il est photographe et puis il réalise des documentaires qui sont principalement axés sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis qui sont à but écologique pour montrer la situation sur la déforestation. Et puis, il travaille principalement avec Munditje Kepanga, qui est le chef papou de la tribu des Ouli, qui vient parler de son engagement pour protéger la forêt.
Alors ça, ce sera donc ce 1er mai. Nicole Gromeau, dites-nous un petit peu, c'est où, c'est quoi, c'est comment, c'est quel horaire, qu'est-ce qui va se passer?
Alors en fait, ce sera donc le 1er mai à Lézin,
à la Lézin American School,
exactement, donc dans leur salle de gym, à 19h30, et c'est vraiment une projection rencontre, donc Marc Dezier et le chef papou, ils seront là et on pourra échanger avec eux.
On va donc pouvoir voir le film.
Tout à fait, voir le film.
Voir la situation, hein, vraiment, comment ça se passe actuellement en Papouasie et Nouvelle-Guinée. Pourquoi ce chef papou, justement, vient à la rencontre, échanger, discuter et passer un moment vraiment pour comprendre, on va dire, l'univers que vit ce chef papou et comprendre ce film. C'est un peu ça.
Eh ben, en fait, c'est la suite du premier film, le Frère des arbres. Et puis ça s'appelle Le temps des solutions parce qu'ils présentent les solutions, justement, qu'ils ont trouvées en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour préserver la forêt, ce qu'ils proposent.
C'est-à-dire
que ben ils plantent des forêts qui sont destinées à être coupées pour vendre du bois au lieu de déforester des forêts ancestrales.
Ok. Donc on propose en fait des solutions pour justement limiter l'impact et limiter surtout la déforestation.
Voilà. Puis c'est pour ça que c'est aussi les en transition qui va financer la projection parce que justement ils sont engagés au niveau du film vert pour présenter des solutions écologiques.
Et donc pour s'inscrire le site internet
lesinentransition.ch et il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit.
On vient,
venez librement.
Les informations elles sont sur le site. On
voilà,
se fait plaisir.
Exactement.
Et Stéphanie Dervet, vous voulez dire un dernier petit mot?
Oui, on voudrait vraiment remercier l'American School parce que c'est eux qui hébergent l'événement et puis ils ont mis à disposition tout ce qu'on aura besoin. Et puis vraiment un grand merci à eux.
Et puis on rappelle,
de rendre ça possible.
C'est donc le 1er mai à 19h30 à la Les American School. Et nous, d'ici quelques instants, après une pause musicale, on va justement écouter le réalisateur Marc Dezier. Merci mesdames.
Merci.
Merci. C'est chaud.
Sur le grill. Oh,
bonne nuit sur Radio Chablais.
C'est chaud.
Sur le grill. Oh,
Gardien de la forêt, le temps des solutions, c'est cette conférence proposée à la Lesin American School, on le rappelle, ce 1er mai à 19h30. C'est le chef papou Mounia Kepanga qui sera présent. Marc Dozier, bonjour.
Bonjour.
Vous accompagnez ce chef papou. Déjà juste, nous présentez qui est ce chef papou et après il faut qu'on parle aussi de vous.
Alors ce chef papou Mounia Kepanga, c'est un chef coutumier traditionnel de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est devenu d'une certaine façon une voix des peuples autochtones et qui lutte contre la déforestation et qui vient, à travers ce film Gardien de la forêt, nous parler de la question de la forêt, du réchauffement climatique, avec des mots très simples qui nous touchent tous.
Ouais, et puis qui le touche lui particulièrement, les peuples autochtones énormément touchés, hein, que ce soit en Papouasie bien sûr, mais partout ailleurs, par la déforestation. Cette problématique qui va l'amener, cette problématique vous la connaissez aussi très bien Marc Dozier, parce que vous êtes carrément quasiment papou vous.
Bon, pas tout à fait, mais moi je suis français, pour tout vous dire. Je suis français et évidemment je suis un fou des papous, c'est comme ça que je me définis. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je voyage à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée et je suis ami avec ce chef papou, Mounia Kepanga, depuis plus de 25 ans. Je suis son parcours, sa trajectoire de vie exceptionnelle, puisqu'il n'était pas destiné à voyager à travers le monde, mais suite à notre rencontre il y a plus de 20 ans maintenant, mais c'est vrai que ce chef papou a eu l'occasion d'aller à l'UNESCO, de rencontrer des personnalités, Robert Redford, le prince Albert de Monaco, pour plaider cette cause des forêts primaires et de la protection de l'environnement, sachant que évidemment lui considère que en tant que chef papou, sa mission c'est de protéger ces forêts primaires, mais son message c'est de nous dire que nous tous, chacun d'entre nous a un rôle à jouer à notre niveau, dans notre jardin, notre ville, notre village, en Suisse, en France. Bref, chacun a un rôle à jouer pour qu'on continue à vivre sur cette planète.
Et justement, ce thème de ce film, hein, Gardien de la forêt, le temps des solutions, quand on entend le temps des solutions, est-ce que solution il y a et comment ça se passe?
Oui, dans ce film qui a été réalisé pour Arte, on expose les solutions concrètes qui sont mises en œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et des solutions, il y en a un certain nombre en fait. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique et c'est le postulat de départ du film. S'il y a une volonté politique, il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour protéger les forêts. Alors, il y en a un certain nombre. Je vais pas toutes les révéler parce qu'il faut bien découvrir le film.
Bah, c'est le but.
Mais bien sûr, mais il y a des projets d'agroforesterie, par exemple. Il y a des projets aussi de forêts secondaires, ça paraît étonnant, mais en fait, planter des arbres et couper ces arbres 50 ans plus tard pour les replanter, comme une exploitation, entre guillemets, forestière, ça permet de protéger la forêt primaire. Donc, ça fait partie des solutions qui sont exposées dans le film. Et si je peux me permettre de partager avec vous son ressenti ou la façon dont il a l'impression qu'il a accueilli, je crois qu'il a toujours l'impression qu'il est d'abord écouté. Parce que c'est vrai, on l'écoute, hein, il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde à ses rencontres et aux projections. Donc il a l'impression qu'il est écouté. Et puis ensuite, lui, il est très à l'aise. C'est quelqu'un de très charismatique, de très drôle aussi. Donc quand il est en public, il fait passer ses messages, souvent avec des phrases qui sont fortes, qui nous touchent, qui vont nous émouvoir, mais en même temps avec des formules qui sont très drôles, parce qu'il nous fait réfléchir aussi sur nous-mêmes, sur le sens de nos sociétés de façon plus large et puis sur l'importance de préserver la nature de façon aussi un peu large.
Merci Marc Dozier. On rappelle donc cette projection conférence les gardiens de la forêt, le temps des solutions avec le chef papou Mounia Kepanga. C'est un moment d'exception à vivre à Lesin, à la Lesin American School, ce 1er mai à 19h30. Toutes les infos alvaudoise.ch ou lesinentransition.ch. Marc Dozier, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au
1er mai.
Au revoir.
Au revoir, merci. C'est chaud.
Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Dorena.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Bienvenue chez nous. C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. C'est Dorena. Ça souffle un petit peu, c'est normal. C'est normal dans la région. On se trouve devant la maison des contes. Ma très chère guide Yasmine.
Oui, pour moi c'est facile à trouver, c'est la maison certainement la plus colorée de Dorena avec ses deux fresques de contes et légendes dessus. C'est aussi parmi les plus vieilles maisons de Dorena. Hein.
Ah ouais,
je crois qu'elle a été construite en 1870. C'était une maison avec une écurie dessous et puis dans les années 1990, fin des années 1990, Béatrice Daillère, qui était la propriétaire, elle reçoit cette maison en héritage. Puis elle décide non pas de l'habiter, mais elle était passionnée par les contes et légendes et elle voulait en faire un lieu pour les contes et légendes d'Outre-Rhône, pour ce patrimoine valaisan. Et même au-delà, le long du Rhône, patrimoine oral. Donc elle a fait la maison des contes et légendes. Il y avait beaucoup de conteurs. Petit à petit aussi, ça a essaimé un peu dans tout le Valais et ailleurs. Et puis, elle a continué à faire vivre. Et aujourd'hui, c'est une maison qui est dédiée plutôt à tout ce qui est patrimoine oral et patrimoine historique, des histoires des Alpes, quoi.
Ah, ça tombe bien, parce que c'est justement de ça dont je veux qu'on parle, de l'histoire de ce petit coin de paradis. Je crois savoir qu'ici, vous cassez un petit peu le caillou. Il y a une histoire d'ardoise. D'ailleurs, les toits des maisons environnantes, qui sont toutes anciennes, sont en ardoise.
Effectivement, on a actuellement une exposition cette année, et depuis une année, sur l'histoire des carrières d'ardoise de Doréna. Aujourd'hui, quand tu vois le village, mais c'est un joli village, il y a 1200 habitants, une petite activité artisanale.
Bon, le micro, il a coupé parce qu'il n'y avait plus de piles, on a dû changer les piles. On reprend. Oui, ça a coupé de manière abrupte, c'est normal. Donc, l'exposition sur les carriérans, parce qu'ici, oh mon Dieu, on a une image juste devant la maison des contes et légendes, avec un vieux train de mine, en fait, avec des petits rails, un bout de train de mine. Et il y a une image magnifique avec deux monsieur avec un béret qui, apparemment, il ne travaillait pas avec de la farine.
Non, effectivement, ici devant la maison, on a reconstitué un rail et puis un fond de wagon des mines d'anthracite. Parce qu'à Doréna, il y avait à la fois les mines d'anthracite, donc ce qui faisait le charbon, hein, et puis les carrières d'ardoise qui étaient un petit peu plus tardives, plus... comment dire ? C'était d'abord les carrières d'ardoise.
Ouais, tardives.
Voilà. Donc, les carrières d'ardoise, ici, on trouve des filons, elles ont commencé à hauteur d'Alès. C'était les premiers filons là, et puis je dirais entre Doréna et Alès. Ça a été exploité depuis 1830 jusqu'en 1960.
Ah quand même, jusqu'à relativement tard.
Ouais, relativement tard. Après, il y a eu d'autres métaux.
D'autres matériaux,
et puis surtout une façon d'extraire qui était beaucoup moins pénible. Parce que l'ardoise, d'abord, c'était à ciel ouvert, et puis il suivait le filon d'ardoise et s'enfonçait dans la montagne. Il travaillait en deux équipes, il y avait l'équipe qui était à l'intérieur, qui creusait le filon, qui découpait les premiers carrés, qui les sortait. Puis à l'extérieur, il y avait une équipe qui taillait l'ardoise déjà dans les 5-6 façons de tailler l'ardoise. Et après, il les descendait à Doréna. D'abord, c'est incroyable, mais sur des grosses luges en bois, il y avait 400 kilos. Et une personne, elle freinait, puis elle tirait cette luge en bois avec des patins. Et puis après, avec un câble, il est descendu à Doréna. Puis là, elles étaient vendues. Elles partaient ici à Doréna, à côté de la Maison des Comptes. On a différents toits. On voit toutes les sortes d'ardoises, hein, des ardoises moins taillées, des ardoises plus taillées. Mais elles partaient dans toute la Suisse romande aussi. Ça s'est développé dans les villes à cause des incendies. 1850, des incendies à Lausanne, les toits recouverts de bois, le feu va plus vite.
Donc, et passer d'un appartement, enfin d'un édifice à l'autre.
Voilà, et donc du coup, en mettant de la pierre sur les toits, ça freinait la vitesse de l'incendie. Donc voilà comment. C'était un métier qui était pénible, qui a fait vivre quand même passablement de familles. Mais je dirais, il y a toujours deux côtés. Donc ils gagnaient bien leur vie, ceux qui avaient les carrières d'ardoise, ceux qui y travaillaient. Puis l'autre côté, ils payaient aussi un lourd tribut, hein. Il y a eu des morts avec la manipulation de la poudre noire pour faire exploser les accidents de chantier. Et puis aussi la maladie à Doréna, que ce soit à cause des carrières d'anthracite ou des mines d'ardoise, il y a eu beaucoup de gens qui sont décédés de la silicose, cette maladie pulmonaire.
La maladie du mineur.
Exactement, la maladie du mineur, ouais.
Bon, un petit hommage à tous ces carriérans. C'est déjà quoi le sobriquet pour les gens de Doréna ?
Les diablerins.
Les diablerins. Un hommage à tous ces diablerins.
Et puis une visite à faire, la maison des contes et légendes, bien sûr, à Doréna.
Radio Chablais, programme de nuit.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangles ?
Sur Radio Chablais.
Alors, aujourd'hui, même si on n'est que mardi matin, l'heure est au festoiement. Ce week-end, je suis partie voir ma famille et pour célébrer nos retrouvailles, on a trinqué ensemble. Et là, c'est la cacophonie de superstitions. Faut regarder dans les yeux, faut surtout pas croiser. Les couples trinquent entre eux en dernier, etc., etc. Et ça m'a fait me poser la question, pourquoi c'est si important de se regarder dans les yeux quand on trinque? D'où vient cette pratique? Alors je me doutais un peu de la réponse et mes petites recherches ont confirmé ce que je pensais. En fait, au Moyen-Âge, c'était principalement les personnes de haut rang qui se retrouvaient à ces festivités et comme leur titre venait avec pas mal de jalousie autour, tout le monde se méfiait de tout le monde. Alors, bonjour l'ambiance, hein. Et à l'époque, ils aimaient pas mal faire la guerre, et l'arme qui faisait le plus fureur, c'était le poison. Donc, ils ont instauré une règle tacite, c'est trinquer. Et à l'époque, les verres n'étaient pas faits de verre, hein, ils étaient beaucoup plus solides, et quand on trinquait, on faisait entrechoquer les verres avec pas mal de force pour envoyer des gouttes de son breuvage dans celui de son voisin afin de mélanger les boissons. Et évidemment, il fallait trinquer en se fixant droit dans les yeux. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que ça permettait de déceler si son compagnon de boisson était stressé, apeuré ou en confiance. En gros, ça permettait de vérifier les intentions de ses invités. Et le premier qui détournait le regard était pris en flag. Ça voulait dire qu'il avait empoisonné le verre de son voisin et qu'il voulait vérifier qu'aucune goutte ne tombe dans son propre verre. Évidemment, maintenant, c'est plus le cas. Normalement, on n'empoisonne pas la personne avec qui on boit. On invente du coup pas mal de choses du style « Si tu regardes pas dans les yeux, tu vas avoir 7 ans de malchance !» juste pour perdurer une tradition dont l'origine nous échappe pour certains. Moi, j'ai voulu prouver ma théorie du trinquage. Je sais pas si ça dit, mais ça se dit sûrement pas, mais j'invente un mot. Donc, j'ai voulu prouver cette théorie et